Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le balado, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. On est disponible sur toutes les bonnes plateformes et toujours à BPM Sport. Vous pouvez entendre moi, Hugues et Nico assez régulièrement. Nico, je commence avec toi. Comment te portes-tu? Grosse semaine de sport, grosse semaine de tennis pour toi?
Complètement, ça n'arrête jamais. Je n'ai toujours pas pu essayer ma nouvelle babola, par ailleurs. J'ai assez hâte d'aller frapper des balles, mais changement d'identité chez moi pour le reste de l'été.
Tu veux dire le changement d'identité de raquette, tu veux dire?
De raquette, bien oui, complètement. Complètement.
C'est drôle parce que hier, j'ai écouté le film sur Michael Jordan. Je suis pas mal sûr que tu l'as. Air, ouais, exact.
Puis il y a l'annonce. Qui paraît-il est fantastique.
Je l'ai vu, c'est très bien.
Ouais, c'est, oui, il faut voir ça. C'est bon, je ne sais pas si c'est fidèle à l'histoire, là, mais c'est quand même c'est un bon divertissement. Puis j'aime toujours voir Ben Affleck et Matt Damon jouer ensemble. Là. C'est quelle histoire ils ont, ces deux-là. Mais il y avait l'annonce dans. Tu l'as vu, l'annonce de Yannick Noah avec sa raquette Ed. Il parlait de ça. Alors, ça me fait penser à toi avec ta raquette. Peut-être qu'un jour, tu feras des annonces, Nico. Nico, félicitations pour ton bon travail durant Roland-Garros. On a pu voir tes articles passer un après l'autre et surtout sortir à une vitesse rapide, très rapide. Alors, excellent travail, mon cher Nicolas. Prends les bons mots. Hugues, comment te portes-tu? Tu ne sembles pas en direct du parc Jarry aujourd'hui.
Non, il y a des ajustements, réparations électriques au stade aujourd'hui. Fait qu'on travaille à distance. Le stade IGA qui se prépare pour l'Omnium Banque Nationale qui s'en vient à grands pas. Donc, pour bien accueillir tout le cirque de la WTA, il y a des ajustements qui sont en cours. Donc, voilà.
Comme en 2014, alors que Eugénie s'apprêtait à affronter Shelby Rogers, qu'on pensait que ça allait être un walk in the park pour Eugénie. Et finalement, ça n'a pas été le cas. En 2014, c'est la panne d'électricité. Toi, Nico, tu n'étais pas né. Tu te souviens pas de ça, sûrement?
Non, moi, j'ai gradué le secondaire il y a une semaine. Fait que...
exact. Félicitations pour ça, par ailleurs.
Il est rentré direct à la presse après. C'est impressionnant.
Hein? Un prodige. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je veux qu'on parle un peu de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, Hugues, parce que, vous l'avez peut-être entendu à la radio, là, les promos ont commencé, mais Sur la ligne sera à nouveau officiellement producteur de la semaine tennis à BPM Sport. Ce sera du tennis presque mur à mur. Alors, vous allez pouvoir entendre moi, Nico et Hugues, ainsi que tous nos collaborateurs toute la semaine. Et puis, ce sera bien le fun. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire l'année passée. C'est une semaine exigeante, mais Colin, que ça a été le fun, Hugues.
Oui, c'est une belle programmation. Ça commence le matin avec café à l'Omnium Banque Nationale. On va être en direct dans les sessions de soirée pour faire vivre l'ambiance et les matchs les plus excitants. Plusieurs entrevues exclusives aussi. On a accès évidemment aux joueurs, aux coachs, aux bâtisseurs du tennis canadien, québécois, montréalais. Donc, on a vraiment une position privilégiée de notre studio sur la ligne, sur le court central. Et évidemment, on va suivre particulièrement les matchs des Canadiennes. Hein. On a bien de voir comment Leila et Bianca, notamment, vont performer. Peut-être une jeune comme Victoria Mboko pourrait peut-être faire les qualifications et se qualifier pour le tableau principal, qui sait. Et on va diffuser, encore une fois, en direct, les demi-finales et la finale dans un mode qui a très bien fonctionné en 2022. Donc, on est vraiment hâte d'être de retour au stade IGA avec vous cette année.
Et je ne serais pas surpris non plus qu'on diffuse certains matchs importants. C'est ce qu'on a fait l'année passée. Oui. On le jouait
Exact.
S'il y a des matchs qu'on juge importants, il y a des bonnes chances qu'on décide de le faire en direct. Et je vous annonce en primeur, messieurs, je vous l'annonce en onde parce qu'on s'en est pas parlé hors d'onde, mais vous allez avoir du travail à faire en amont parce que je veux qu'on prépare beaucoup de matériel pour nos auditeurs au courant de la semaine et vous serez assurément impliqués. Alors, bien content de ça. Et Nico, tu auras double tâche puisque tu auras la presse et sur la ligne durant toute la semaine.
À Toronto, hâte d'y être également. J'ai hâte de voir l'ambiance là-bas. J'ai jamais fait mon tour à Toronto, les gars. Je ne sais pas si vous y avez été. Je veux dire, sur le plan tennistique, là, j'ai déjà été à Toronto, mais pas à l'Omnium Banque Nationale, là, qui n'est pas à Toronto. Toronto, là, c'est à York, qui est un peu plus en banlieue de Toronto. Ça m'a l'air d'être un chic endroit, très universitaire, très jeune, très branché. Ça fait que, ça va être une belle expérience. Puis, tu sais, je ne suis pas le genre à me plaindre de la météo, mais si on pouvait prendre quelques degrés de moins que l'année passée, rappelez-vous, les gars, à quel point c'était chaud bouillant. Je m'en plaindrai pas.
Puis une journée sans trop de pluie qui retarde tout le tournoi.
Oui, exactement.
Mais ça arrive à chaque année, il y a de la pluie.
Il y en a une. Exactement. Faut juste pas que ce soit le dernier dimanche.
Non. En effet.
C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé qu'il y a eu une des finales le lundi. Et ça arrive une fois ou deux dans l'histoire du tournoi.
Ouais, mais connaissant un peu la gang de Tennis Canada, qui est la gang la moins stressée de l'univers, je pense qu'on va s'en tirer peu importe ce qui arrive.
Ben, tu sais, Eugène Lapierre se faisait poser la question à chaque année, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la pluie? Puis il dit, ben, on fait la même chose qu'à chaque année parce qu'il y a de la pluie à chaque année. Ça ne stresse pas bien gros. Là.
Ouais, ouais.
Messieurs, rentrons dans le vif du sujet. Et pour y rentrer, ben, je vais laisser place à Novak Djokovic.
Alors, bonjour tout le monde. Je commence avec français, peut-être. J'essaie. Merci, merci une autre fois pour une atmosphère spéciale, merveilleuse. Je suis évidemment très heureux de partager ce moment très spécial de ma carrière avec vous, avec cette stade très, très, très spécial dans ma vie. Merci beaucoup.
Que c'est le dernier grand chelem qui résistait à lui là, quand il a gagné ici.
Que j'ai gagné le 23 grand chelem ici à Paris parce que ce tournoi était vraiment tous les jours de toute ma carrière le tournoi plus dur de gagner pour moi. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de choses sous les courts et à l'extérieur aussi. Et je dois dire que je suis très, très fier et très heureux d'être ici dans cette cour très, très spéciale. Donc, merci encore pour votre présence, pour votre soutien, pour votre énergie aujourd'hui et tous les tournois cette année. Merci beaucoup.
Bien entendu, 2016, il a gagné son premier Roland. Et aujourd'hui, il gagne son troisième Roland en même temps que son 23e Grand Chelem.
Et je cherche pour un professeur de français encore. Je n'ai pas le trouvé. OK, I switched.
Alors, Novak Djokovic qui dit chercher un professeur de français, mais honnêtement, messieurs, son français est plus qu'excellent et ça durait presque 2 minutes, mais je voulais qu'on le joue au complet parce que je trouvais ça intéressant qu'il s'adresse en français à la foule française. Avant qu'on parle de la finale, juste qu'on revienne rapidement sur ce qui s'est passé en demi-finale. Parce qu'on avait de grandes attentes pour ce match-là, Nico, et malheureusement, blessure ou crampe oblige, le spectacle n'a pas été celui qu'on a attendu.
Oui, c'est dommage parce que en prélude de ce match-là, je parlais en nom de Max Van Hout, notre estimé collègue, puis je lui disais, c'est non seulement la finale avant la finale, mais c'est possiblement le match de l'année point barre sur le circuit de l'ATP, compte tenu du niveau des deux gars et compte tenu de l'enjeu et du contexte entourant cette demi-finale. Et ultimement, les gars, on ne se fera pas de cachette, là, les deux premières manches s'enlignaient pour nous offrir le match de l'année. C'était âprement disputé, le niveau était exceptionnel, mais est arrivé ce qui est arrivé, et je m'explique encore mal comment ça a pu se produire. On sait qu'Alcaraz traînait des blessures un peu partout, en fait. C'est ce qu'on a su au cours des derniers jours, depuis plusieurs semaines. Mais c'est arrivé tellement de manière banale, inattendue. Ça saugrenue à la limite. Et c'est extrêmement dommage parce qu'on avait entre les mains un excellent match de tennis.
Hugues, est-ce que tu as été déçu de voir, bon, la fin du match, pas déçu en termes de performance, mais que le spectacle n'a pas pu être ce qu'il a été? On a eu le droit peut-être au coup de l'année déjà, là, mais le spectacle n'aura pas été à la hauteur en raison des problèmes physiques d'Alcaraz. Ben,
je pense que Andy Roddick, le grand champion américain, aurait bien résumé cette situation-là quand il a dit « Novak Djokovic, first he takes your legs, then he takes your soul ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi, j'étais un peu aussi déçu sur comment ça s'est conclu en direct, mais j'y repensais après et j'ai dit « c'est Djokovic qui a fait le travail ». Il a fait le travail de sap en tenant une cadence infernale durant les deux premiers sets. C'était un très beau match, comme l'a dit Nico. Les deux premiers sets, c'était à la hauteur de nos attentes. Mais je pense que dans une grande situation comme celle-là, un match en 5-7, Djokovic, avec l'expérience qu'il avait, était prêt pour ce match-là. Et je pense que Alcaraz a un peu croulé sous l'importance du moment. Et je pense que j'ai lu aussi comment il se sentait depuis quelques jours. Il était très nerveux. Il pensait beaucoup à sa finale, à sa demi-finale. En fait, qui était une finale avant la finale, comme on le disait plus tôt. Mais j'ai l'impression que c'est la victoire de Djokovic. C'est pas la défaite de Alcaraz. C'est Djokovic qui a encore une fois mis son étau sur un match. Il a resserré. Et Alcaraz a craqué physiquement. Son corps l'a lâché. Il crampait de partout. Donc bravo à Djokovic. Il a montré encore pourquoi c'est lui qui est maintenant le GOAT en termes de statistiques, en tout cas, avec le 23e Grand Chelem, numéro 1 au classement ATP ce matin. Seul homme a gagné 3 fois les 4 Grands Chelems. Et ça, pour moi, c'est une stat qui est impressionnante parce que Nadal n'a pas réussi à faire ça. Federer n'a pas réussi à faire ça. Donc bravo là, pour Djokovic. Et c'est lui qui a gagné le match. Donc, je ne suis pas déçu de ce match-là. Il faut reconnaître comment Djokovic a admirablement fait son Roland-Garros pour gagner son 23e Grand Chelem cette année.
Moi, je la trouve intéressante, ton analyse, Hugues, puis je t'ai entendu en parler ce matin à la radio.
Ouais.
Et je trouve ça vraiment intéressant parce que tu dis, OK, c'est vrai qu'Alcaraz, il s'est blessé puis il n'était pas à 100%, mais c'est Djokovic qui a forcé le jeu,
oui.
Qui l'a forcé à se dépasser et qui a un peu forcé la blessure. Je te dis pas que ça serait peut-être... S'il avait été à 100%, il aurait gagné le match, Alcaraz. C'est pas ça que je te dis. Mais je trouve que c'est intéressant de dire, mais c'est lui qui l'a bousculé, ouais. Autant sur le terrain que physiquement. Et ça, ben, quand t'es bousculé et que tu dois jouer à 100%, ben, ton risque de blessure, il est plus élevé. Alors, moi, je la trouve intéressante, cette analyse-là. Par contre, quel coup d'Alcaraz!
Ah, wow. un copier-coller du coup que Federer avait fait il y a plusieurs années. Le même genre de coup, drop shot, il monte au filet, il se fait lober et fait un genre de passing par derrière sublime. Donc, oui, c'est probablement le coup du tournoi.
Moi, vous savez, j'étais en Colombie-Britannique, alors le match était un peu plus de bonheur pour moi. Alors, c'était à mon réveil, j'ai ouvert la télé et c'était à peu près, je faisais peut-être 15-20 minutes, j'écoutais le match et là, j'ai vu ce coup-là, j'ai dit « aïe, aïe, aucun sens ». Alors,
t'as vu, Alex, vous avez vu les gars comment ils souriaient. Moi, j'aime tellement voir le sourire de Carlos Alcaraz quand il y a pas mal de la tête aux pieds. Mais le bonheur qu'il a de bien jouer, de réussir des coups comme ça, c'est vraiment contagieux et c'est une belle attitude, ça fait plaisir à voir.
Ah, écoute, il est un parfait successeur à Federer et Nadal et je lui souhaite tout le succès au monde parce que s'il peut avoir une carrière qui va se rapprocher des grands et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, il a certainement le potentiel pour le faire, mais il va être un méchant bel ambassadeur pour le tennis pour les 10-15 prochaines années s'il peut avoir une carrière aussi longue que ça. Messieurs, en finale, première des choses, je vais vous demander la chose suivante. Étiez-vous surpris de voir Casper Ruud en finale? Nico, je commence avec toi. Et c'est ironique comme question.
Bien, surpris, compte tenu de son année, oui. Compte tenu de ce qu'il a fait auparavant, non. C'est-à-dire qu'on en parle depuis le début de la saison. Casper Ruud n'est pas l'ombre de lui-même. Mais lorsqu'on regarde ce qu'il a fait sur terre battue depuis 2020, les gars, statistiquement, il est le meilleur joueur. Devant Nadal, devant Alcaraz, c'est lui qui a le plus de titres, c'est sa surface. Il l'a dit l'an passé à l'Omnium Banque Nationale en conférence de presse lorsque je l'avais demandé. Je lui disais, est-ce que tu te considères comme un joueur de terre battue ou dorénavant, tous les joueurs sont pas mal bons partout, tu sais? Puis il m'avait dit, ça n'existe plus vraiment des spécialistes. Dorénavant, les gars du top 10, que ce soit Nadal, Federer, Djokovic ou moi-même, en parlant de Ruud, on peut gagner pas mal partout. Mais il n'en demeure pas moins que, comme Robbie Ménard aime le rappeler, chaque joueur a un ADN. Et l'ADN de Casper Ruud, il est sur terre battue. Donc, compte tenu de son expérience, je ne suis pas surpris de le voir là. Ce qui m'a surpris, c'est de voir à quel point il a été tenace au premier set. Parce que dans ma tête, les gars, même si j'adore Casper Ruud, dans ma tête, c'était plié comme match en 3-7 rapidement, un genre de 6-4, 6-3, 6-4. Là. Mais de voir comment il a répondu, de voir à quel point il n'a pas été intimidé par Djokovic en début de match. Les gars, 3-0 en début de match, il a brisé Djoko d'entrée de jeu. J'aurais jamais parié là-dessus. Après, Djoko est revenu l'ombre de lui-même. Mais pour ce début de match-là, je pense qu'on doit lever notre chapeau à Casper Ruud. Et c'est vraiment une victoire de Djoko et non pas une défaite de Casper Ruud.
Hugo, tu es surpris d'abord et avant tout de voir Casper Ruud arriver en finale?
Non. Je vous rappelle, dans une discussion que j'avais eue avec Casper Ruud de l'Omnium Banque Nationale l'an passé, il m'avait dit « Je n'attends qu'une chose, rejouer en finale de Roland-Garros, en espérant que ce ne sera pas contre un certain Espagnol. » Il parlait de Nadal, évidemment. Évidemment, il a eu sa chance, mais je pense que la prochaine fois, il va dire « J'aimerais pas jouer une autre finale contre un certain Serbe. » Parce que Djokovic est juste imprenable dans des grands moments comme ça. C'était sa troisième finale en Grand Chelem perdue, ce qui est un record. Donc, deux fois Roland-Garros et l'US Open. Edmonton l'été dernier. Donc, c'est une stat qui fait mal. Mais je pense que Rude va avoir son moment de gloire en Grand Chelem. Est-ce que j'étais surpris? Ben oui, parce que la saison sur terrain battu en préparation ne nous laissait pas entendre que Rude était prêt à aller à ce niveau-là. Mais il a bien géré son calendrier. Il a fait un très, très beau tournoi. Il a eu des très grosses victoires. Donc, je pense qu'il a mérité 100% sa place en finale. Et je suis pas très surpris du score, mais ça a été un bon match quand même en finale. Ça a été un match serré, mais Djokovic a une petite coche au-dessus quand même.
Et Hugues, juste pour rappeler, là, tu parles, tu évoques les trois défaites de Rude avec raison.
Ouais.
Mais il faut quand même souligner et rappeler le contexte dans lequel ces trois finales-là se sont jouées. D'abord, ouais. Tu as Nadal l'an passé, qui est le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue.
Ouais.
C'était presque injouable. Ensuite, New York, Alcaraz, le joueur de l'année, la sensation de l'heure et le numéro 1 mondial.
Ouais.
Et là, cette année, Djoko, qui est dans un contexte de devancer Nadal 23e Grand Chelem, je veux dire, les trois fois, le contexte était infavorable à Casper Ruud. J'espère, évidemment, le sport, il n'y a rien de prévu, puis il n'y a rien d'assuré, puis c'est, je pense, ce qui nous fait vibrer. Mais je lui souhaite tellement, au moins un titre Grand Chelem.
Oui.
Je pense que ça va arriver, mais avec ce qu'il a surmonté dans les dernières années, puis toujours arrivé face au mur, puis c'est-à-dire, j'ai pas ce qu'il faut parce que le contexte, parce que mon adversaire est meilleur. C'est tellement dommage pour un gars de cette trempe-là, mais je suis convaincu comme toi qu'il va finir par triompher.
Je suis d'accord avec toi, Nico. Ça serait dommage que Casper Ruud reste dans les livres d'histoire seulement pour être le seul homme à avoir perdu trois finales de Grand Chelem. Il mérite mieux que ça.
Et Nico, ton analyse de ce match-là, ça ressemble à quoi? Hugues, tu dis, bon, ça a été un match serré. Ouais, ben, ça a été une opposition raisonnable, mais il reste que c'est un 3-7 quand même.
Ouais. D'abord, je vais commencer par Casper Ruud, là, ça va être réglé. D'une part, chaque fois que je regarde ses matchs, son coup droit me sidère. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il est sans doute l'un des trois meilleurs coups droits, tellement précis, tellement puissant. On sait que Ruud n'est pas le plus gros, n'est pas le plus explosif, n'est pas le plus puissant. Mais lorsqu'il dégaine, lorsqu'il décoche, ses balles sont fumantes. Puis même si son revers est un peu son point faible, son coup droit est tellement constant, tellement solide que ça compense. Il est beau avoir joué, comme je ne vais pas me répéter, mais il gagnera un jour. Fait que ça, je pense que c'est réglé. Puis de la manière dont il a répondu sans se faire intimider, comme ça avait été le cas contre Nadal et Alcaraz, pour moi, c'est un gros plus pour lui. Après, pour ce qui est de Djoko, je ne sais pas, Alex, on va ressortir la clip en fin de saison, mais je vous avais dit en début d'année, les gars, que Djoko allait gagner le Grand Chelem. Les quatre tournois majeurs. Pour la simple et unique raison, les gars, que dans mon esprit, Djoko est encore le meilleur joueur au monde. Puis ce n'est pas en raison de sa victoire que je le dis, mais je le mentionne depuis au moins 2 ans. C'est juste que logiquement, les gars, je ne vois pas qui pourrait battre Djokovic dans un 5-7. Pour moi, elle est là, la logique. Je me dis, oui, on peut le battre dans des Masters 1000, on peut le battre dans des 500, parce qu'en deux manches, à peu près tout peut arriver, ça va vite.
Ouais.
Mais dans un environnement aussi particulier que celui des Grands Chelems, puis sur une longueur de 3 manches, pour moi, il n'y a personne sur cette planète, à ce jour, qui peut battre Djokovic sur la longueur des matchs, puis sur l'usure. Il est tellement fiable, il est tellement constant et tellement en forme. Il a d'autant plus énormément d'expérience. Je ne vois pas cette année encore. Puis oui, Alcaraz, oui, Ruud, oui, Medvedev. Mais pour moi, il n'y a aucun de ces gars-là qui pourrait battre Novak Djokovic 3 manches dans un même match.
Serais-tu prêt à gager qu'il va gagner le Grand Chelem cette année?
Plus ça va, je l'ai dit en début d'année, puis plus ça va, plus j'en suis convaincu.
Hugues, analyse.
Ben, je suis d'accord que Djokovic, le facteur important, ça a été le fait qu'on jouait en format 5-7. Tu sais, quand on parlait de Alcaraz, de Holger Rune, c'est des joueurs qui ont montré qu'ils pouvaient gagner en 5-7, mais qui ont montré qu'il y avait peut-être des limites physiques aussi dans certaines situations. Alors que Djokovic, dans ces moments-là, c'est là que la machine Djokovic lui lie à la perfection, préparation mentale, alimentation, sa puce de Iron Man, tout est contrôlé parfaitement pour qu'il aille à son plein potentiel dans les tournois du Grand Chelem. On le sait, on le répète souvent, sa motivation première, c'est de réécrire les livres d'histoire en ce moment. Et là, il y a le Grand Chelem calendrier en tête. Là, il y a l'Australie en banque, il y a le French Open en banque, Wimbledon s'en vient. Moi, je vous dis, les gars, attention, on a peut-être un Grand Chelem calendrier qui est en train de se faire en ce moment avec Djokovic. Et là, ça va être encore une fois un autre niveau en termes de GOAT pour le statistique, pour le volet au niveau statistique seulement. On pourra reparler après de l'impact sur le jeu. Je sais qu'on en parle beaucoup là, depuis quelques jours encore. Mais Djokovic réécrit les livres d'histoire et sa motivation principale, c'est ça. C'est les grands chelems, c'est d'être prêt pour ces grands moments-là sur les grandes scènes en 5-7. C'est le meilleur.
Messieurs, je vous propose d'écouter à nouveau Novak Djokovic, cette fois en conférence de presse après le match, là, parce que là, tantôt, c'était sympathique, on l'entendait parler français, mais vous pouvez entendre l'analyse de son match.
I knew that going into the tournament, and I mean going into the match, especially today, that there's history on the line, but I try to, you know, focus my attention and my thoughts into preparing for this match in the best way possible to win like any other match. Of course, I would lie if I say that I didn't think about, you know, the finish line that is right there, and then one more match is needed to win a trophy, a historic one, of course. But my team has created a good bubble around me, so we've, you know, I think, a great job into just staying in the present moment and performing as good as we wanted to. And of course, when I saw his forehand going wide, I felt a huge relief, and I was overwhelmed with wonderful emotions, and yeah, I'm very, very happy and very proud of it.
Alors, Novak Djokovic qui dit « Je vous mentirais si je vous disais que je ne pensais pas au fait que c'était un match historique. » Il faisait évidemment référence à sa 23e victoire. Il est le premier et le seul à le faire pour un méchant bout. Ça, je peux vous le garantir, parce que je ne pense pas que Nadal va gagner un autre grand chelem. En tout cas, je serais surpris. On verra l'année prochaine.
Attention, avec Nadal…
On ne sait jamais.
Je lui souhaite et je nous le souhaite d'un point de vue historique là, et d'un point de vue contenu. Ça ne serait pas mauvais pour nous autres non plus. Mais voilà, il dit, je savais que c'était sur la ligne et j'y pensais. Il a dit qu'il était très fier et surtout que son équipe avait fait tout un travail pour le garder dans une bulle, le garder concentré. Alors, c'était les commentaires d'après-match de Novak Djokovic. Et si vous le voulez bien, messieurs, ben, on peut entendre également Casper Ruud.
Obviously, it was the game at 4-2 that was unfortunate. It was some deuce here and there, and then finished with a really long rally where I missed the overhead, which was sort of a bit devastating. But, you know, I was still leading, so I mean, I don't think I lost because of that, but it would be nice to sit down and have 5-2, and then there's new balls, obviously. So that was tough, but yeah, I just. Novak just stepped up in the tiebreak, played too good there in the beginning, especially, and had a big lead early, and I couldn't recover, and then a bit disappointed that I wasn't able to keep it closer in the beginning of the second. He pulled away too early, and I wasn't able to recover, and then third set was close. Didn't really have too many chances myself, but I just tried to hold my serve, stay in there, and see what happened. But you know, I feel like, man, every time I play Novak, he's sort of, it's in a big match, so he's motivated to try to win. And I feel like I played him many times where he's like the best version of himself, where he's just really locked in and doesn't give you much. He makes it very tough, both, you know, to win every point against him. He reads the game very well. It's tough to find winners against him. So yeah, just all creds and honor to him for how good he is. And I gave it my all, but it wasn't enough.
Alors, Casper Ruud qui a parlé de ce jeu critique à 4-2 où il y a eu beaucoup d'égalité, il n'a pas pu revenir, n'a pas pu gagner ce jeu-là et ça a peut-être fait une différence. Et puis, il a fait référence un peu à ce que tu disais tout à l'heure, Rug, à l'effet que Djokovic, ben, il prend vos jambes et il prend votre âme après, au sens où il dit c'est tellement dur de trouver des coups gagnants contre Novak Djokovic. C'est peut-être le meilleur joueur défensif de l'histoire du tennis. C'est difficile. C'est un excellent retourneur. Alors, on a senti un peu amer Kasper Ruud, comme s'il disait, ben, il n'y a rien que je pouvais faire. C'est comme si c'était au-dessus de lui, tu sais.
Je dirais pas, Alex, je dirais pas amer, je dirais plutôt résigné.
Ah, résigné, ouais. Tu sais, bon point.
C'est-à-dire, c'est un peu l'impression que j'ai eue dans son apparition au micro après le match. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, moi, c'est plus ça. C'est Kasper Ruud contre l'histoire. Puis l'histoire, les gars, je vous le dis, va gagner 99% du temps. Fait que, tu sais, je veux dire, comme on disait tantôt, Kasper Ruud a fait ce qu'il pouvait, puis il l'a dit. J'ai donné tout ce que j'ai pu, mais c'était pas assez. Fait que, tu sais, à un moment donné, il a beau faire tout ce qui est à son pouvoir pour gagner un match 3-7 contre Novak Djokovic dans un grand chelem. Mais à un moment donné, la logique l'a rattrapé. T'sais. Fait que moi, j'ai trouvé résigné. Il est très bon, là, Kasper Ruud. Là. Novak Djokovic l'a dit sur le podium après le match. Là. C'est sans doute la meilleure personne et qui a les meilleures valeurs sur le circuit. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut être logique. Ses chances étaient minimes, puis il le savait lui-même, je pense, d'entrée de jeu.
Je pense qu'il y a quand même une petite marge de progression sur Ruud. Hein. Quand on regarde les stats, Djokovic a très, très bien servi un pourcentage de réussite en premier service de 73%, 80% de points gagnés sur son premier service, 65% en deuxième. Un bon premier service en jeu à 64%, hein, c'est une zone qui est bonne. On en parle souvent avec nos collaborateurs coach, comme Izad ou Robbie. 64%, c'est bien, mais 68% seulement, 57% seulement de points gagnés en premier service, c'est pas assez pour Ruud. Il faut que tu gagnes plus de points quand ta première balle passe. Donc ça, c'est le premier point. Et aussi, en retour, il a seulement gagné 25 points en retour. C'est pas suffisant, alors que Djokovic a presque gagné le double. Donc, il y a des marges de progression encore. Je sais pas s'il l'a en lui, mais pour aller chercher un match comme ça, il faut que ses stats soient un petit peu plus fortes. Il faut, on le sait, sur terre battue, avoir un arsenal un peu offensif. On sait que l'amorti est devenu un coup très important sur terre battue. Et la plupart des joueurs, Alcaraz en premier, Rooney aussi, s'en sert comme une arme offensive. Donc, je pense que Ruud, comme Mats Wilander l'a fait à une certaine époque sur surface dure, il faut amener des nouveaux coups à son arsenal pour réussir à passer au prochain niveau. Et je pense que Ruud, il y a un peu de travail à faire à ce niveau-là encore. Mais avec ce qu'il avait comme arsenal hier, ce match en 3-7, dont deux sets qui sont allés vraiment à la limite, là, 7-6, 7-5 au premier, troisième. Il a fait de son mieux, mais Djokovic était au-dessus, tout simplement.
Mais je pense, eux, que ça va venir avec l'expérience, parce qu'on l'a vu, les amortis, il en a fait deux ou trois dans mon souvenir, qui ont été gagnants puis qui étaient très, très bien exécutés.
Oui.
Monter au filet, il ne l'a pas fait souvent, et lorsqu'il l'a fait, mis à part les smashs, ça a marché. Fait que je fais le parallèle avec Félix. T'sais, Félix, on le sait, au filet, il est dominant, mais il ne monte pas assez. Fait que je suis convaincu que lorsque ces notions-là seront assimilées, lorsqu'ils seront confiants dans les grands moments, ils le feront. Parce que hier, Ruud, s'il avait été pleinement plein de possession de ses moyens, il aurait fait beaucoup plus d'amortis, puis il serait monté beaucoup plus souvent, parce que lorsqu'il l'a fait, ça a marché.
Je pense je suis d'accord avec ça.
Il a ces coups-là, mais c'est de choisir quand les faire.
Exact. 100% d'accord avec toi, Nico.
Messieurs, je vais conclure le bloc avec une question bombe, je vais le dire comme ça. Et je veux une réponse relativement courte. Là. Considérant qu'il est encore le meilleur joueur sur la planète, qu'il va jouer encore potentiellement quelques années, on ne sait pas, là, peut-être bien qu'il va annoncer sa retraite après l'US Open cette année, je ne sais pas. Là. Est-ce qu'il sera le premier joueur à se rendre à 30 titres du Grand Chelem? Nico?
Ouf, 30? Non, je ne pense pas. Pas 30. Pas 30.
S'il joue 5-6 ans encore, hein?
Mais Alcaraz qui va monter, Medvedev va continuer. Tu sais, je vais dire oui, je veux bien là, le plus grand, le meilleur de l'histoire, c'est-à-dire possiblement 30, c'est encore 6. Là. C'est au moins 2 par année. Là.
Non, mais si on gagne 2 autres cette année.
Je suis 100%.
Ce
serait logique, mais je pense à 30. Je pense pas.
La face de Hugues me fait dire qu'il va y aller à 30.
Je pense que le premier objectif, c'est le grand chelem calendrier cette année. Si on en rajoute 2, il sera rendu à 25, ce qui est déjà incroyable. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a plus cette motivation spéciale de devancer Federer, de devancer Nadal. Donc, je pense qu'il va, oui, il va vouloir écrire son livre des records de façon la plus longue et la plus dominante qu'il pourra. Mais je pense que à partir de 2024, 2025, les bons jeunes joueurs vont continuer de pousser. Puis lui, ben, il y a l'âge qui va le rattraper quand même. Là. Fait que je pense que oui, lui en reste sûrement deux ou trois ou quatre encore devant lui, mais je ne suis pas sûr que je serais prêt à parier sur un 30.
Mais c'est pour ça, les gars, 2023, c'est l'année la plus importante de sa carrière. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que d'une part, on l'a dit depuis le début, le Grand Chelem calendaire, mais s'il parvient à gagner le Grand Chelem, il remporte aussi son 25e et donc devancera Margaret Court au premier rang de l'histoire, tous sexes confondus. C'est pour ça que les deux prochains tournois Grand Chelem seront les deux tournois les plus importants de sa carrière pour marquer l'histoire vraiment au fer rouge.
Bien intéressant, messieurs. Parlant de gens qui marquent l'histoire, il y en a une qui commence tranquillement à faire son nom dans l'histoire du tennis et surtout dans sa génération. Elle, Iga Swiatek, a été championne du tournoi. On en parle après la pause.
Profitez d'un rabais de 30% sur votre séjour dans une suite à l'Hôtel Montville. Une magnifique vue du centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre. Organisez votre prochain événement au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux avec des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente à commercial@hotelmontville.com.
Si on attendait soit peut-être Alcaraz, soit peut-être Djokovic en finale, on attendait aussi du côté des femmes, possiblement, Iga Swiatek. Il n'y a pas eu de surprise là, quoique, elle a prouvé qu'elle n'était pas aussi invincible que l'année passée par bout. Nico, analyse de cette finale-là contre Mukova. Ou d'abord, étais-tu déçu de ne pas voir, de la même manière, Sabalenka en finale?
Tu as mis le doigt sur ce qui a marqué mon tournoi, c'est-à-dire je m'attendais tellement à un choc de titane entre Swiatek et Sabalenka. J'étais tellement déçu de Sabalenka, mais j'étais déçu dans la mesure où on dirait qu'elle a repris ses vieilles habitudes. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, on vante la nouvelle Sabalenka, plus mature, plus confiante, plus raisonnable, plus concentrée. Mais on dirait que la Sabalenka de 2021, 2020, 2019 est revenue très impatiente, très dans l'émotion. Fait que ça, j'ai été un peu déçu de Sabalenka. Mais finale, complètement surprenante. Je m'attendais pour voir les gars une rincée nette, claire et précise là, de Swiatek. Mes respects à Muchova qui a prouvé qu'elle pouvait jouer au tennis. Mais je m'attendais à un très court match. Là. Swiatek était tellement dans une classe à part depuis le début du tournoi. Puis tu sais, on dira que c'était prévisible qu'elle gagne. Mais en même temps, les gars, il faut les gagner, ces matchs-là. C'est-à-dire qu'elle a battu Coco Gauff, qui a très, très bien joué. 6-4, 6-2, expéditif. Ensuite, Béatrice Haddad-Maia, qui était pour moi, non pas une surprise, parce que je l'attendais, mais pas à ce point-là. Elle était vraiment dans une bulle tout au long du tournoi. Elle a très bien joué. Elle a fait plier un peu Swiatek en deuxième manche, mais finalement, ça s'est avéré une victoire pour Swiatek, mais elle a quand même surmonté ce petit défi-là. Puis en finale, ben même si elle a été ébranlée, elle est revenue. Donc oui, pas une victoire surprise, mais il faut quand même souligner qu'elle a bien joué Swiatek tout au long du tournoi, puis que c'était pas une victoire donnée nécessairement.
Hugues, analyse.
Bravo à Mouchkova pour un tournoi incroyable. Et c'est vrai quand même qu'il faut dire qu'à 5-2, 30-40, balle de match, ça... Sabalenka n'aurait pas dû l'échapper. Donc, je pense qu'elle doit s'en vouloir. Puis effectivement, on a revu un peu cette Sabalenka qu'on sentait un peu plus fragile au niveau émotif ou mental. C'est toujours dur de faire des commentaires comme ça de notre siège d'analyste. Mais bon, elle aurait dû gagner ce match-là quand même quand elle était à 5-2 et qu'elle a échappé cette balle de match. Mais moi, j'ai tellement aimé le jeu de Mouchkova, sa panoplie d'armes, comment elle monte au filet, comment elle travaille ses points. Je vous ai dit durant la finale féminine hier, je dis elle a les armes pour déranger Swiatek, mais pas du fond de terrain. Puis elle a réussi justement à aller chercher quand même un set. C'était une superbe finale. Et moi aussi, je m'attendais à un truc beaucoup plus quand même dominant de la part de Swiatek, qui gagne pour la troisième fois un titre à Roland-Garros. Il confirme de loin sa place de numéro un, mais c'est quand même bien de voir Mouchkova qui a eu beaucoup de blessures dans sa jeune carrière quand même, pouvoir se rendre jusqu'au bout d'un grand chelem.
Ben écoute, bon. Tu parles de Mouchkova, je vous propose qu'on l'écoute dans sa conférence de presse après la rencontre, voir ses états d'âme.
Yeah, now it's the feeling is a little bitter because I felt it was very, very close match. But overall, I mean, to call myself Grand Slam finalist, it's amazing achievement and for sure big motivation for me to work in the future and then to get a chance again to play for these big titles. The difference, well, you could see the difference in the first set and half. I think I felt I was little slow, I would say. And Iga, obviously, she usually has these great starts to the matches, I would say. And when she's on the roll, it's tough to break in. But I was trying to continue to change the rhythms and to get her out of the rhythm. And then in the second set, I with that one break that I managed there, I came alive a little bit. And I felt that then in the third set, the difference was not so big. We both had mm-hmm. chances, and I didn't use them as well as she did.
Alors, Mouchkova qui a commencé son intervention en disant « Bon, je ne cacherai pas que je suis un peu déçu, là, même si c'est un bel accomplissement, je prends ça quand même difficile, mais elle dit quand même de pouvoir être une finaliste de Grand Chelem, c'est quelque chose que on pourra pas m'enlever. » Et puis ça, ben, elle a 100% raison. Elle a parlé qu'elle se trouvait peut-être un peu lente sur le terrain en début de match, mais quand tu joues contre une fille qui est aussi bonne que Swiatek, c'est pas évident. Nico, tu voulais-tu ajouter quelque chose?
Non, mais c'est juste, tu parles de ses jambes lourdes au début. J'ai le feeling qu'au début, elle était impressionnée parce que l'ampleur du moment puis parce que
c'est
Swiatek.
C'est vrai.
Mais plus le match allait, plus on sait qu'elle se disait « OK, je peux retourner ses balles, je peux compétitionner, je peux rivaliser. » Donc, c'est long, on dirait qu'elle a pris confiance plus le match avançait. Mais Alex, je fais une parenthèse là, vraiment très anodine, là, mais pour moi, la plus belle nouvelle du tournoi, c'est pas Swiatek, c'est pas Mouchkova. C'est Elena Rybakina qui, en dépit de son forfait en raison de malaise de virus, est enfin là où elle doit être, c'est-à-dire au troisième rang mondial. Jessica Pegula qui a descendu de deux et là Rybakina qui est enfin dans le top 3, là où elle devait être depuis un sacré bail en raison de ses points volés à Wimbledon. Donc, je suis content de voir Rybakina enfin là où elle doit être. Et statistiquement parlant, on a enfin le Big Three, 1-2-3, Swiatek, Sabalenka, Rybakina.
Bien dit. Et je vous propose, messieurs, d'écouter également Swiatek parce qu'on a écouté la finaliste. C'était une finaliste, une championne assez contente.
Coaster. I'm feeling all these, you know, different emotions right now. It's pretty surreal, everything. But you know, the match was really intense. A lot of ups and downs and stressful moments. And coming back, you know, so I'm pretty happy that at the end I could, you know, be solid in those few last games and finish it. But Karina really played well, and it was a big challenge. So I'm happy and really proud of myself that I did it. I don't know. Like at first, I was surprised because I saw all these matches of Karolina when she was actually, you know, coming back from a score like that. And I, before the match point, I wasn't really thinking that it's gonna happen now. You know, I just played and I just gave it all. But I was like a little bit surprised that it actually happened, you know. She was always, you know, coming back. So so I felt like, I don't know what I felt. It's hard to describe. But a lot of happiness, and I felt suddenly, you know, tired of these 3 weeks. Maybe my matches weren't like physically exhausting, but it's pretty hard to kind of keep your focus for this even like almost 3 weeks. And also the whole swing, you know, because since Stuttgart, I haven't been home. So I'm happy that I finished the whole clay court swing so well, and that I kind of survive. And I guess I'm never going to kind of doubt my strength again, maybe because of that.
C'est intéressant parce qu'elle disait qu'elle avait des doutes sur elle-même et c'est la numéro un mondiale. Elle dit qu'elle a douté d'elle-même dans les derniers temps. Elle a dit qu'elle a été un peu surprise du niveau de jeu de Mukova et aussi, elle a dit que ça a été un match difficile et ce qui est surprenant d'une certaine manière, c'est que ça a était à peu près le seul match difficile pour elle dans tout le tournoi, peut-être à part la demi-finale où elle a été bousculée un peu dans un set, là, mais pour le reste, elle a eu presque un walk in the park, là, des 6-0, des bagels, des retraits devant elle. Alors, Swiatek qui s'impose comme une des championnes est incroyable. Je ne sais pas si tu voulais ajouter comme ça quelque chose, Hugues.
Non, c'est une grande championne, grande numéro un. Elle joue du beau tennis, Iga Swiatek. Pour les amateurs de tennis, les fans, c'est un bonheur de la regarder jouer. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à voir Iga Swiatek jouer. Espérons qu'elle va rester là très longtemps, puis au numéro un. Et je suis content, comme disait Nico, de voir ce Big Three qui se met en place parce que je crois aussi que c'est un vrai Big Three. C'est trois filles, Rybakina, Sabalenka avec Swiatek qui ont plus à offrir que les autres joueuses qui suivent. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer à Wimbledon ou US Open. Il va y avoir des grands match-up là, si les trois sont en forme là, d'ici la fin de la saison.
Encore une fois, quel tournoi de Mukova. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de monde, moi le premier, qui ne la voyait même pas passer le premier tour. Là, elle jouait contre Sakkari, elle a sorti Sakkari au premier tour. Et puis après ça, ben écoute, elle va battre une fille comme Sabalenka et puis offre une belle opposition. C'est dire la profondeur du tennis tchèque chez les femmes, c'est absolument incroyable. Je rappelle que Krejčíková a gagné ce tournoi-là il n'y a pas si longtemps quand même. Messieurs, avant qu'on passe au bilan en chiffres du tournoi, je m'en voudrais de ne pas parler de Leila Annie Fernandez. Nico, on dit souvent qu'on veut parler plus de double et là, on a une opportunité incroyable de le faire. Je pense que Leila était déçue de perdre en finale, mais c'est une superbe semaine qu'elle a connue et c'est que du positif pour elle.
Oui, puis tu sais, les gars, rappelez-vous, en début de saison, on disait que Leila, ça ne va pas super bien. Au moins, elle gagne en double. Tu sais, c'est un peu ludique, c'est un peu dit sur le coin de la bouche. Tu sais, c'est comme, OK, ben, tu sais, elle joue des matchs, ça va bien. Mais là, on vient de passer à un autre niveau, les gars. Oui, on a Dubrovski qui domine, ben, pas qui domine, mais qui est très bonne année après année, qui est sûrement l'une des cinq meilleures joueuses de double au monde. Mais là, il faudra commencer à parler de Leila Annie Fernandez, qui est une excellente joueuse de double aussi, les gars, parce qu'avec sa partenaire Taylor Townsend, ça a été du bonbon les voir aller. Évidemment, les matchs n'étaient pas tous diffusés sur les grandes chaînes. Mais dans les faits saillants qu'on a vus, les gars, ça jouait au tennis, pas à peu près. Et je suis le premier à avoir dit à Max, notamment Max Van Hout, que oui, c'est un beau parcours, mais lorsqu'on va affronter Pigoulet et Coco Gauff, ben, ce sera la fin des haricots, puis ça aurait été une belle ride, tu sais. Mais là, elles battent ce qui est, à mon avis, le meilleur duo au monde, du moins depuis quelques mois. Ça a été époustouflant. Puis oui, là, c'est plus juste la fantaisie de gagner des matchs. C'est qu'elle peut gagner des tournois. Et que ce soit en double ou en simple, pour moi, il n'y a pas de différence dans la mesure où gagner, c'est gagner. Puis triompher, c'est triompher. Alors, je ne sais pas où ça va mener, ce duo-là. Je ne sais pas c'est quoi leur plan à court, moyen, long terme. Mais ça augure très, très bien. Puis je pense que la saison de Leila vient de prendre une autre direction.
Mm-hmm. Oui, elle avait l'air tellement contente quand ils se sont qualifiés pour la finale. C'est presque une réaction comme si elle venait de gagner la finale, c'était vendredi matin. Donc, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, cette série à Roland-Garros. Et je dirais que c'est un baume pour les Canadiens. Les trophées de finalistes que Leila Fernandez et Bianca Andreescu, finalistes en double mix avec son partenaire Michael Venus, vont ramener au Canada. Mais pour Leila, moi aussi, je pense que ça va avoir un effet positif sur le reste de sa saison parce qu'elle était tellement déçue de sa défaite rapide en simple. Donc, c'est vraiment une belle performance de Leila. Et elle s'impose comme une excellente joueuse de double en passant. On va l'avoir joué beaucoup en double, je pense, encore dans le reste de l'année.
Bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que je dirais même Fernandez et Townsend, dans les derniers mois, s'imposent comme une des meilleures paires de double au monde. Force est de l'admettre parce que tu le fais bien le souligner, Nico. Jessica Pegula et Coco Gauff, c'est une des meilleures paires de double au monde. Certains diront la meilleure. Moi, je reste encore avec Krejčíková et Siniaková, là, mais c'est certainement, quant à moi, une grande victoire canadienne en double, même si le duo est canado-américain. Là, mais c'est une belle victoire. Et c'est une belle semaine. Oui.
Non, j'allais juste dire, tu mets l'accent sur l'aspect canadien, puis je le répète, puis je vais encore le répéter. Pensez à la Coupe Billie Jean King, puis pensez aux Jeux olympiques, les gars. Si on a une Leila Annie Fernandez qui s'installe comme l'une des 10 meilleures joueuses au monde, Ça offre des chances à Félix Auger-Aliassime de jouer en double mixte avec elle aux Olympiques. Ça donne la chance au Canada lors de la Coupe Billie Jean King d'avoir possiblement les deux, en fait, deux des 10 meilleures joueuses au monde en double, c'est-à-dire Dobrovsky et Fernandez. Donc, si cette facette-là de son jeu peut s'améliorer, ce sera bon pour Tennis Canada.
100%. Et il y a une autre femme qui a très bien fait dans ce tournoi-là, Bianca Andreescu, Hugues, qui a fait la finale. C'est en double mix, mais toute victoire et tout long tournoi, ne serait-ce que se rendre à la fin du tournoi, c'est une bonne nouvelle pour Bianca Andreescu, même si c'est en double mix.
Un trophée du Grand Chelem, peu importe pour quelle discipline, c'est quelque chose qui va aller dans ton trophy case ou sur ton foyer pour le restant de tes jours. C'est un accomplissement important. Moi, je suis content pour Bianca. Il faut les gagner, ces matchs-là encore. On a vu toute sa qualité. Et on sait aussi qu'en double, et encore plus en double mix, le joueur le plus faible sur le terrain est celui qui va faire que l'équipe va souvent perdre. Donc, on a vraiment vu une Bianca avec Michael Venus qui pouvait tenir les matchs, tenir les échanges. C'est une très belle performance de Bianca Andreescu. Et moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir le reste de la saison. Nos deux filles là, du top 100, malheureusement, Léla est tombée beaucoup au classement parce qu'elle avait beaucoup de points à défendre avec son quart de finale de l'an passé. Mais les deux sont en voie de connaître une très bonne saison pour les 6 mois qui restent, j'en suis convaincu.
C'est juste plate pour Dobrovsky, les gars, parce que je me mets dans sa peau. C'est fait battre en demi-finale par Bianca, puis s'est fait battre au troisième tour par Leila. Elle se dit, c'est supposé être moi la meilleure joueuse de double, et là, tu as deux joueuses de simple qui arrivent puis qui me battent. Fait que je trouvais ça un peu cocasse, mais c'est sûr que ça pose une semaine facile sur l'orgueil de Dobrovsky, mais je pense que pour le tennis canadien, elle était bien contente, elle aussi.
Et autre histoire intéressante dans cette finale-là, je suis quand même content pour l'adversaire de Bianca Andreescu, Miyu Kato, parce que, si vous vous souvenez bien, c'est elle qui s'était fait disqualifier sur une décision, je vais le dire comme ça, un peu douteuse, voire ridicule, de la Fédération française de tennis, la disqualification en double. C'est elle qui avait envoyé la balle par inadvertance. C'est un accident à une ball girl qui a même pas été proche d'être blessée, là, vraiment. Et c'est elle qui avait été disqualifiée de ce tournoi-là. On en avait parlé la semaine précédente. Alors qu'elle puisse quand même finir avec un trophée, j'imagine que ça va y faire un petit bond. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, Milos Raonic était en action.
Profitez d'un rabais de 30% sur votre séjour dans une suite à l'Hôtel Montville. Une magnifique vue du centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre. Organisez votre prochain événement au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux, avec des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente@commercialhotelmontville.com.
Vous l'avez déjà entendu et on tentera d'en faire une chronique régulière. On va rejoindre notre spécialiste des médias sociaux, notre gestionnaire, celui avec qui vous jasez sur toutes nos plateformes, Abraham Santer. Salut Abraham, comment ça va?
Salut Alex, ça va bien toi?
Oh, ça va super. Comme je le disais en début d'émission, je suis en congé ou presque, là, c'est-à-dire que je ne travaillerai pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors déjà, ça, c'est en partant, c'est bon. Et puis, j'ai pas quelques 8 projets en même temps. Là, alors, ça fait vraiment du bien. Par le projet, on en a un pour toi. Tu vas, semaine après semaine, idéalement, nous parler des autres Canadiens en rafale. Parce que nous, on en parle principalement dans les gros tournois, mais tu vas nous parler des juniors, tu vas nous parler également des autres Canadiens un peu partout sur la planète. Et puis, écoute, on va commencer cette semaine avec notre préféré, Alexis Gallardo, qui a connu une excellente semaine aux États-Unis.
Ben oui, exactement. Il est arrivé à Tyler, aux États-Unis. Je ne saurais pas dire c'est dans quel état, malheureusement. Mais il a fait demi-finale au tournoi, puis il n'a pas perdu contre n'importe qui. Je suis sûr que tu le connais, le joueur Mikhail Kukushkin, le Kazakh. Donc, c'était un long match, 6-4, 4-6, 6-4 en demi-finale. Donc, Gallardo aurait pu aller en finale. Ça s'est joué de peu. Donc, belle performance d'Alexis Gallardo. C'est vraiment prometteur pour l'été qui s'en vient. Là. Il fait une petite tournée de Challenger aux États-Unis, dans les Caraïbes aussi, pour être en forme pour l'été. Donc, ça s'annonce bien pour le futur.
Ouais, ça, c'est bien intéressant pour lui que bon, les victoires n'ont pas été au rendez-vous comme on peut l'attendre. On sait quel talent il a. On l'a vu à l'Omnium National l'année passée contre Grigor Dimitrov, chauffer un des meilleurs joueurs au monde. Alors, ça fait du bien de le voir aller un peu plus loin dans le tournoi. D'ailleurs, on essaiera d'y parler prochainement.
Puis son classement, il n'est pas nécessairement révélateur parce que dans le tournoi, il a battu aussi la deuxième tête de série du tournoi, qui est 200e au monde, le joueur de Taipei, Tung Lingwu. Donc, Gallardo, il peut, contre n'importe qui, compétitionner, puis on peut s'attendre à des surprises chaque semaine. Donc, ça, c'est intéressant. Exact.
Et pour répondre à ta question, mon cher ami, Tyler, c'est au Texas. Il y a quelques tournois au Texas, aux États-Unis. Autre Canadien dont tu veux nous parler, un autre de nos favoris ici au podcast, Gabriel Diaz.
Gabriel Diallo, qui était en feu la semaine dernière. Je ne sais pas si c'était ses premières performances sur gazon, mais il a vraiment bien fait ça. Il a bien démarré ça. Il a battu au deuxième tour à Nottingham. Nottingham, sinon c'est cette semaine. La semaine passée, c'était à Surbiton, encore au Royaume-Uni. Il a battu la première tête de série du tournoi, Daniel Evans. On le connaît tous, 25e raquette mondiale. Il l'a battu aisément, 7-5, 6-2. Très belle performance de Gabriel Diallo qui finalement s'est incliné en quart de finale au tournoi, mais ça l'a un petit peu fait connaître son nom partout dans la planète avec cette performance-là.
Donc, il avait été particulièrement efficace l'année passée à l'Omnium Banque Nationale en battant des joueurs top 50 là, notamment, et puis pas longtemps après, il avait enchaîné avec une victoire au Challenger de Granby. Alors, non, je pense que c'était une bonne décision pour Gabriel Diallo de passer chez les pros. J'ai hâte de le voir sur gazon. Sans qu'il ait le service le plus rapide, il a quand même une grandeur intéressante qui l'aide. Et puis, s'il continue de développer cette arme-là, le service, il sera certainement un joueur dangereux sur gazon.
Donner une comparaison, ce tournoi-là, Surbiton, a été gagné par Andy Murray. Donc, c'était vraiment relevé comme tournoi. Donc, un quart de finale, c'est vraiment bon pour Gabriel.
Exact. Alors, dans le cas de Gallardo et Diallo, c'est eux qu'on suivait principalement cette semaine. Qu'est-ce qu'on doit surveiller la semaine prochaine? Où sont nos Canadiens?
Oui, bien, encore une fois, avec Gabriel Diallo, il reste au Royaume-Uni. Il va jouer au tournoi de Nottingham au Royaume-Uni encore. Et là, il est directement au premier tour. Il va jouer contre le Français Enzo Cuoco. On connaît les vraiment connaisseurs, on connaît ce joueur-là. Donc, un autre challenger, et c'est possible de voir quelques surprises. Là. Il ne serait pas supposé jouer contre des gros joueurs avant les quarts de finale. Donc, ça, c'est excellent. Et après, dans les Caraïbes, pour l'Omnium des Caraïbes, il y a trois Canadiens dans le tableau principal à Palmas del Mar au Puerto Rico. Il y a Gallardo, évidemment, qui est 8e tête de série du tournoi. Il y a aussi Liam Draxel, qui joue au premier tour contre la première tête de série, le joueur de Taipei que j'ai mentionné tantôt, Tung Lingwu. Et aussi, il y a Steven Diaz qui va jouer contre un qualifié au premier tour. Donc, trois Canadiens à surveiller dans ce challenger-là. Ça va être intéressant à voir.
T'as-tu dit que c'est un challenger sur surface dure, c'est ça que tu as dit?
Oui, c'est sur dur.
OK, parfait. Merci infiniment, Abraham. On va surveiller ces joueurs-là. Tu viendras nous parler de leurs résultats la semaine prochaine en espérant que ce sera une semaine qui va être similaire pour Gallardo et Diallo qui pourront continuer sur la série. Merci, mon ami.
Parfait, ça fait plaisir.
Merci beaucoup, Abraham, pour ce résumé de nos Canadiens. Avant la pause, messieurs, je parlais de Milos Raonic. Hugues, il était en action et c'est un retour au jeu victorieux pour Milos. Moi, je n'aurais pas parié pour ça. D'ailleurs, contre Kecmanovic, es-tu surpris de voir Milos remporter ce tournoi-là?
On revoit un Milos Raonic en grande forme. Physiquement, il a perdu beaucoup de poids. Je pense qu'il avait envie de revenir. Il revient évidemment sur sa surface de prédilection, le gazon. Mais quand même, de battre Kecmanovic, là, qui est un joueur établi du top 50, là, si rapidement, c'est quand même une belle victoire en 2-7. Je crois que c'est 6-3, 6-4, là, qui est le score, ou 6-4, 6-3. C'est un retour réussi impressionnant pour Milos Raonic. J'ai bien hâte de voir jusqu'où il va se rendre dans cette saison sur gazon.
Nico, es-tu surpris de voir Milos Raonic après plus d'un an et demi sans jouer? Là, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était en 2021. Alors, tu es surpris de voir Milos remporter son match retour comme ça? Certains pensaient même qu'il était à la retraite.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas surpris de l'avoir gagné, je suis surpris de l'avoir joué. Point barre. Parce que je m'attendais. Pour moi, Miloš était. Il était parti. Là, on se revoit dans une autre vie, Miloš, puis ça aurait été une bonne ride, tu sais. Mais non, complètement surpris. Puis sur gazon, c'est un endroit où il peut briller puis reprendre confiance, c'est bien sur cette surface. Je ne parierais pas sur une finale à Wimbledon, les gars, mais c'est fantastique. Si Miloš peut revenir, du moins dans le top, qui sait, top 40, peut-être top 50, si on peut le voir jouer avec Félix, avec Vachek, avec Dennis, c'est que des bonnes nouvelles, pour vrai, c'est que des bonnes nouvelles. Puis c'est vrai, comme Hugues disait, là, j'ai vu les images ce matin, puis il avait l'air fringant comme une rose.
En grande forme.
Alors, c'est un tournoi qu'on va surveiller cette semaine à Herzegenbosch. Je t'entendais, Hugues, dire le tournoi le plus difficile à prononcer. Je suis d'accord avec toi.
Le Garmisch-Partenkirchen du tennis.
Je sais pas pourquoi ça roule mieux sur la langue. Ça fait que je pense qu'on va dire aux Pays-Bas plutôt que...
Ouais, aux Pays-Bas. C'est le début de la saison de terre battue. Messieurs, on n'a pas beaucoup de temps. On va terminer l'émission sur ça. Mais il y a quelques Canadiens en action cette semaine, comme Abraham nous le rappelait un peu plus tôt. Et Nico, ben comme c'est la tradition, ben je vais te laisser terminer l'émission.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.